Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Objectif Startup, bienvenue sur Cowork la radio, l'émission dédiée aux startups et aux entrepreneurs. J'ai le plaisir de recevoir Clément Lefourny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général et cofondateur de Agriconomie.
Exactement.
Alors, on va commencer, comme d'habitude dans l'émission, par présenter Agriconomie. Expliquez-nous quel est le métier d'Agriconomie en fait.
Agriconomie, à la base, donc, c'est une société qu'on a cofondée avec Paulin Pascot et Dean Nguyen en 2014. L'objectif, c'est d'apporter tout ce dont ont besoin les agriculteurs directement en ligne. Donc, on est un site de e-procurement. Ils peuvent commander des engrais, des semences, des pièces détachées, de la nutrition animale. En gros, tout ce qu'on a besoin au quotidien sur l'exploitation.
Ouais. Ah, donc, agriconomie.com. C'est le site internet.
Ouais.
Donc les agriculteurs s'y rendent, c'est très facile d'accès, ils commandent, ils font leurs courses en fait.
Exactement, ils font leurs courses. Alors c'est un petit peu différent que les courses sur Amazon parce qu'on ne commande jamais 50 euros ou 100 euros, c'est tout de suite
oui, forcément.
5, 10, 20 000 euros. Donc c'est un petit peu quand on s'est créé en 2014, passer 20 000 euros en ligne pour des agriculteurs qui n'étaient pas forcément, c'était le début du digital finalement dans le monde agricole. Ils étaient capables de faire des mandats de prélèvement pour payer 20 000 euros en ligne. Donc c'était vraiment une prouesse en 2014. Alors aujourd'hui, ça paraît quelque chose de standard. Mais c'est vrai que quand on s'est créé, c'était un petit peu, ça sortait des carcans finalement du monde de l'agriculture.
Alors aujourd'hui, vous avez des clients dans toute la France ?
Exactement, on a des clients dans toute la France. On a 80 000 clients. Il y a deux mois même, maintenant on est plutôt même à 88 000 clients. Concernant la zone géographique, on est à la fois en France, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Voilà.
D'accord. Depuis quand, en fait, ça s'est comme ça élargi ?
En 2018, on a ouvert la Belgique. En 2019, on a fait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. L'objectif, c'était montrer, un, que la plateforme, elle est capable de scaler facilement à l'international. Mm-hmm. Ça, on a super bien réussi. Et ensuite, être capable de montrer qu'on est capable de scaler aussi le business et donc de réaliser des ventes. Et aujourd'hui, il y a 15% de nos ventes qui sont faites à l'international.
Il y a beaucoup de bio sur votre site.
Il y a effectivement pas mal de bio. Hein. C'est un marché qui a une tendance, qui monte très très fort dans le milieu de l'agriculture, des croissances très importantes. Donc nous, l'objectif, c'est d'accompagner les agriculteurs dans la transformation. Donc c'est pas proposer seulement du bio, seulement du conventionnel. C'est permettre en fait à ces agriculteurs qui vont progresser dans leur manière de transformer, leur manière de produire, les accompagner tout au long de leur changement, que ça soit passer du conventionnel à l'ultra raisonné, au bio ou à haute valeur environnementale. On est capable de les accompagner sur tous les produits dont ils ont besoin.
Et alors justement, là, ça fait 7 ans maintenant que Agriconomie est née. Comment vous avez, enfin, quelles évolutions vous avez vues de la part des agriculteurs ?
Au début, on avait beaucoup d'early adopters. Hein. On a commencé la première année, 500 clients, c'était les premiers. Donc, quand il fallait sortir la carte bleue pour payer 5000 euros, c'était vraiment une prouesse, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ça devient un marché de masse, quoi. 88 000 clients dans la France uniquement. Quand on regarde sur le nombre d'agriculteurs, il y a 350 000 agriculteurs. On a 300 000 visiteurs uniques tous les mois. Donc, il y a à peu près 80%, 90% des agriculteurs qui passent sur la plateforme tous les mois. On est rentré dans le marché et aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus peur de commander en ligne.
Oui, oui, c'est devenu monnaie courante pour eux. Justement, ces 88 000, c'est des clients réguliers, en fait.
Exactement.
Ils ont un compte sur Agriconomie.
C'est des clients actifs. Hein. Donc, c'est des clients, tous les ans, ils reviennent, ils recommandent. Et l'objectif, c'est toujours augmenter notre part de share of wallet chez eux. Donc, quand on commençait, les agriculteurs mettaient peut-être 5, 10% de leurs approvisionnements chez nous. Oui. Et donc, l'objectif, c'est de les monter à 25, 30, 40%, de leur faire économiser de l'argent, de leur trouver les produits qu'ils ne trouvent pas localement, de mettre de la transparence dans le marché, parce qu'il y a 7 ans, il n'y avait pas de transparence.
Alors, donc, c'est quoi pas de transparence ? Enfin, comment on met de la transparence, justement, dans ce marché ?
Déjà, afficher des prix. Il n'y avait pas beaucoup de prix. Il n'y avait pas d'autres sites pour avoir le prix. Bon, ben, on contactait ces 2-3 acteurs locaux qui nous donnaient un prix. On n'avait pas le même prix que son voisin.
Ouais.
Donc, on avait peu de transparence. C'était un marché qui était très peu liquide. Au moment où on est arrivé, effectivement, il y a 7 ans, ça, c'était un coup de tonnerre quoi, dans la plaine.
Oui, oui, j'imagine. Et très vite, vous êtes devenu crédible ?
on est devenu assez vite crédible, hein, étant donné que les volumes ont suivi très rapidement, ouais. Que
mais il fallait que ça suive derrière.
On a fait beaucoup de communication, donc c'était aussi ça qui nous a rendu crédible.
Sur les réseaux ?
Sur les réseaux, d'une part, mais aussi canaux traditionnels. On a fait des réseaux sociaux, effectivement, mais ensuite tout ce qui est du display, tout ce qui est SIA, SEO. Mm-hmm. Donc dès qu'on commence à remonter dans les rankings Google et autres, bah, ça, tout de suite, on gagne
bien,
en visibilité.
Ouais.
Et en plus de ça, il y avait le bouche à oreille. C'est un petit monde, les agriculteurs se côtoient énormément et c'est ce qui marche le mieux parce que quand Jean-Pierre a déjà fait une première commande, qu'il en parle à son collègue, bah, tout de suite, c'est dix fois plus fort finalement que la communication traditionnelle.
Et vous êtes, est-ce qu'il y a une région dans laquelle vous êtes implanté, comme, enfin, je ne sais pas si on peut dire implanté, mais ça a commencé par une région en particulier ?
On a commencé dans l'est de la France, le 10 et le 51, donc l'Aube et la Marne. Mmh. Étant donné que je suis originaire de là-bas, donc c'était un peu plus simple, j'avais déjà quelques contacts, ça nous permettait de nous lancer facilement. Ensuite, on a très très vite déployé toute la France. On est toujours très très fort dans le 10, dans le 51, parce que c'est historique, hein. On a des clients qui reviennent tous les ans et cette part fait que grossir. Mais aujourd'hui, je peux pas dire qu'il y a une zone qui est plus facile qu'une autre. On se sent à l'aise vraiment partout en France. Et on commence à être à l'aise aussi à l'international, puisqu'on a à peu près 10 000 clients à l'international, ce qui est quand même assez intéressant.
Le métier d'agriculteur aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias, ça devient de plus en plus compliqué. C'est dur au quotidien. Les agriculteurs, vous les sentez justement, vous sentez ce côté un peu psychologique, le fait que ce soit dur ?
Alors là, effectivement, hein, on est sur un marché qui est assez dur. Un, il y a une pression économique.
Oui.
Deux, il y a une pression sociale, une pression sociétale, il y a une pression environnementale. Donc quand on mêle toutes les pressions, bon, on a l'impression que la terre s'abat sur eux. Je dirais plutôt le ciel s'abat sur eux, me semble-t-il. Et donc l'agriculteur, déjà, s'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, qu'en plus de ça, il y a un peu d'agribashing, parce que c'est, on le voit, hein, de temps en temps, le glyphosate, les pesticides... Oui. C'est pas toujours évident pour les agriculteurs de le supporter.
Mais c'est injuste pour eux, en fait.
Exactement, hein, sachant que les agriculteurs ont toujours été à la rescousse, finalement, de l'État. Quand fallait mettre en place la démocratie, bon, bah, ils l'ont mis, c'était eux qui l'ont porté à bout de bras dans les communes et dans la ruralité. Quand on est sorti de la guerre, qu'il fallait nourrir la France pour reconstruire la France, c'est eux qui l'ont fait.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, on leur dit, bon, bah, maintenant, va falloir moins polluer, quoi. Et ça, c'est un peu dur à admettre pour l'agriculteur, parce qu'en fait, quand on est agriculteur, on a 40 essais au cours de sa vie. On va travailler 40 ans, 40 saisons. Donc on va semer et l'année prochaine, on récolte les fruits de notre travail. Et donc, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on ne peut pas tout de suite changer tout le modèle du jour au lendemain. Donc il faut laisser un peu de temps pour que les agriculteurs puissent adapter leur méthode de production aux contraintes environnementales, mais ils n'ont pas attendu 2015 pour le faire. Typiquement, sur les exploitations, la réduction des pesticides et ainsi de suite, c'est des choses qui ont été engagées dans les années 2000.
Oui, ça fait déjà un moment, c'est ce que j'allais dire.
Ça coûte tellement cher que derrière, on ne s'amuse pas à en mettre parce que c'est fun. Quand on l'utilise, c'est vraiment pour protéger la plante, sécuriser la partie économique de l'exploitation. Et c'est vrai que ce n'est pas un amusement pour l'agriculteur.
Est-ce qu'il y a un peu... Est-ce qu'ils ressentent un abandon de la part des politiques, ces agriculteurs ?
Je ne sais pas si on peut parler d'abandon. En tout cas, ils sont toujours... L'agriculture, et c'est bien parce que le monde agricole est très supporté. Hein. Il y a encore la PAC qui est très présente, même si elle tente à réduire. Cette année, on a la chance d'avoir des prix de matières premières qui ont beaucoup augmenté. Donc les agriculteurs, ils sont sensibles aux cours de marché, qui sont des marchés internationaux. Donc les cours sont plutôt bons, donc ça va être une année qui ne va pas être trop mauvaise. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture fait aussi son travail, puisqu'il fait une belle promotion de l'agriculture.
Oui.
Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif.
C'est vrai qu'ils remettent un peu en avant, justement, l'agriculture comme pilier de la France, en fait.
Exactement. Hein, on voit que la ruralité, et encore plus avec la crise du Covid...
Oui. Les Français, il y a eu une prise de conscience.
Exactement. Hein, les Français ont une prise de conscience, sachant que les Français, je crois qu'il y a 70% des Français qui jugent que le monde agricole français produit correctement et des produits sains. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je le vois au quotidien, 100% des agriculteurs produisent des bons produits par rapport à tout ce qu'on peut importer et ainsi de suite.
Ah oui, c'est vrai, vous...
Ouais, y a
vous
vraiment,
le voyez comment, ça
on le voit dans la consommation, dans les modifications des méthodes de production, dans l'interdiction des produits qu'on a en France, mais derrière, qui ne sont pas interdits dans les autres produits et qui arrivent sur le marché français.
Ouais.
Donc, si vous voulez consommer un produit qui est fiable, environnementalement responsable,
oui.
Parce qu'on a été élu pour la quatrième année consécutive modèle agricole le plus long terme. Et c'est le modèle français qui est le plus long terme et le plus respectueux de l'environnement. Je trouve que c'est plutôt une belle réussite
c'est
d'avoir transformé sur ces dernières années l'agriculture française.
Et c'est vrai que bon, bah, pour ceux qui nous écoutent, c'est mieux d'acheter quand on va au marché, au supermarché, c'est mieux d'acheter des fruits, des légumes qui viennent de France, forcément.
Et exactement.
C'est plus sûr, ça fait marcher l'économie, c'est mieux pour toutes les raisons.
Exactement. Et puis en plus, on a des produits qui ont du goût, des produits aujourd'hui, il y a certains pays qui respectent pas forcément certaines normes en termes de travail, de conditions de travail, et ainsi de suite. Aujourd'hui, en France, faut savoir que les normes de travail sont super bien respectées. L'agriculteur, il protège son capital. Hein. Ce qu'il nourrit aujourd'hui, c'est la terre, donc il a pas intérêt à la détériorer. Au contraire, sur ces dernières années, il y a une très grosse prise de conscience. Et c'est plutôt un bon présage pour les années qui viennent, j'ai envie de dire.
Aujourd'hui, vous fournissez où ?
Nous, on se fournit directement, soit chez des grossistes, soit chez des producteurs. Par exemple, les semences, elles sont produites par les agriculteurs, elles sont transformées, on achète les semences et ensuite on les revend. Donc on se fournit exactement pareil que la distribution classique, sauf qu'on est sur le territoire national, là où la distribution classique est plutôt locale.
Du coup, vous avez, j'imagine, des entrepôts partout en France ?
Exactement, on a deux entrepôts, on a une capacité de stockage qui est un peu moins de 7000 m2. Donc un dans le nord de la France et un dans le centre de la France. Et là, récemment, on a ouvert un entrepôt à Reims, qui nous permet de faire de la livraison rapide. Donc l'agriculteur commande le matin, il est livré l'après-midi, commande l'après-midi, il est livré le matin. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Il y a un besoin de réactivité très très fort et de proximité avec le monde agricole, parce qu'en fonction de la météo, en fonction des conditions climatiques, il peut se dire, ok, là je dois intervenir, il commande, il est livré l'après-midi, il peut intervenir en fin de journée.
Donc la grosse nouveauté pour réagir justement à un besoin, pour répondre à un besoin des agriculteurs.
Immédiat, quoi. C'est un besoin immédiat, exactement. Donc là, on a sorti ça sur 5 départements. Et l'objectif, c'est que ça soit live sur quasiment la France entière dans les mois qui viennent. Voilà.
Et là, vous avez des exemples récemment d'agriculteurs qui, je sais pas, c'est les derniers mois, là, qui ont justement fait appel à cette livraison rapide pour un problème en particulier. Quel genre de problème ça peut être ?
Par exemple, il y avait les semis de colza, donc c'est quand on implante le colza. Ça fait 3 ans où les semis de colza sont très compliqués sur le mois d'août, étant donné qu'il y a la sécheresse.
Ouais.
Donc si on implante une graine et qu'il y a la sécheresse, ça ne pousse pas ou ça pousse mal. Et donc les agriculteurs ne se couvraient pas au mois de juin ou au mois de juillet. Donc n'achetaient pas les semences en attendant de voir la météo.
D'accord.
Et quand il a fallu intervenir parce que les conditions météorologiques étaient les plus propices, ils ont commandé. Et
ah
puis
oui.
À ce moment-là, ça leur permet d'avoir la disponibilité du produit à l'instant T, vraiment quand ils en ont besoin.
C'est génial.
Ouais.
Ouais. Du coup, c'est bien parti cette livraison rapide, ça devrait...
Normalement, ça devrait bien prendre, étant donné qu'on ne veut pas que ce soit juste la livraison rapide, on veut juste que ça devienne un standard dans le marché de l'agriculture demain.
Ouais.
Voilà.
Dans toute la France. Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs à l'agriconomie ?
Globalement, il y a 75 collaborateurs sur tous les types de métiers. Donc, on va avoir des catégories managers qui sont des chefs de marché. On va avoir des gens en logistique sur le commerce parce qu'on accompagne également les agriculteurs techniquement dans leur choix entre tel produit ou tel produit,
les conseillers.
Telle pièce ou tel prêt. Exactement. Dans leur manière de produire, on les accompagne aussi sur le prix des intrants. Donc, par exemple, sur les engrais, c'est un marché qui fluctue tous les jours. Là, c'est un marché qui augmente énormément. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur dit, OK, il serait temps de couvrir parce qu'on pense que le prix est bon. Et en fait, typiquement, sur des agriculteurs qui ont commandé au mois de mai, s'ils commandaient maintenant, il y a une différence. On leur a fait économiser 7, 8, 15 000 euros juste en les conseillant sur la date la plus propice pour acheter.
Donc là, c'est vraiment un accompagnement, en fait. Vous les accompagnez.
Exactement, on est partenaire de leur rentabilité. À chaque fois, faut savoir que le salaire des agriculteurs est très très faible. Donc, quand on parle de 15 000 euros d'économie pour une exploitation,
c'est énorme pour eux.
C'est 15 000 euros qui rentrent dans leur poche directement. Et ça, c'est vraiment la plus-value qu'on propose. Et accompagner l'agriculteur, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'on a des experts marchés qui sont chez nous.
Et alors, les experts marchés, ils se déplacent ou chez les agriculteurs ou c'est par téléphone, c'est des rendez-vous? Comment ça se passe?
Aujourd'hui, l'objectif, c'était aussi de réduire les charges de structure, étant donné qu'un commercial qui se déplace avec une voiture, c'est quand même relativement onéreux. Ouais. Ce qu'on a préféré faire, nous, c'est avoir des conseillers téléphoniques. Mais par contre, ils ont tous une formation agricole. Ils sont formés sur les dernières technologies variétales et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'on fait la différence et qu'on est capable de proposer des prix qui sont abordables, oui, et en tout cas plus abordables pour l'agriculteur.
Vous avez réduit les coûts et du coup, vous proposez des produits plus intéressants pour
exactement,
les agriculteurs.
Ouais.
Comment s'est passé le confinement pour vous, les confinements, la crise à partir de mars 2020? Comment ça s'est passé?
Nous, ça n'a pas été très compliqué. Il y a eu 15 jours où le premier confinement, finalement, tout le monde était un peu chez eux. Mais les agriculteurs, ils avaient besoin de bosser. Et surtout avec tout ce qu'on a vu, pénurie de produits et ainsi de suite, parce que le marché n'était pas prêt. Les agriculteurs étaient à fond derrière pour produire, et bien en plus, les produits dont on avait besoin. Donc finalement, vu qu'ils étaient dans les champs, toute la filière agricole était également dans les champs. Et à ce moment-là, bon, on n'a pas vu énormément de différence. Si ce n'est qu'on a continué notre travail globalement un petit peu comme on le faisait avant. Et c'est vrai que les agriculteurs, certains avaient peut-être un peu plus peur de voir du monde et donc ils commandaient un peu plus sur Internet. Mais ça n'a pas été drastique dans l'amélioration de notre business sur l'année 2020 ni même 2021.
D'accord, donc pas vraiment de changement.
Non, il n'y a pas eu énormément d'impact chez nous.
Et en termes d'approvisionnement, il n'y a pas eu de soucis
Alors, on commence seulement à avoir des problématiques d'approvisionnement parce que, étant donné qu'il y a une reprise économique, il a fallu remettre en route les usines et ainsi de suite. Donc, il y a certains produits qu'on a du mal à se fournir, certaines pièces.
Par exemple
L'acier, typiquement, il a pris 40%. Donc, quand on voit qu'une pièce était vendue 100 euros, maintenant, elle est vendue 140 euros. Quand on voit on a eu une augmentation, par exemple, le prix d'un engrais qui a doublé. Bon, ben voilà, il y a une vraie complexité. Les engrais organiques, ils ont pris entre 20 et 40%. Donc ça va dégréver forcément la rentabilité des exploitations agricoles qui n'étaient pas bien grosses déjà sur les dernières années.
Et ça, les agriculteurs en ont conscience. Ils ont compris d'où venait l'augmentation de certains produits, certains...
On leur explique, ils le voient aux informations. Typiquement, c'est un vrai sujet. Après, il y a des sujets géopolitiques. Par exemple, avec la Biélorussie, ça a un gros impact parce qu'il y a beaucoup de production en Biélorussie sur les engrais qui arrivent en France. Étant donné que les frontières ont été fermées, on a moins de produits qui arrivent, donc ça fait augmenter les cours. Vraiment, il n'y a pas que le Covid qui joue un rôle. C'est vraiment un environnement géopolitique et économique qui n'est pas forcément le plus efficient aujourd'hui pour produire à moindre coût, entre guillemets.
Comment, alors, vous le disiez, vous aviez des contacts dans la Marne, justement. Comment est née cette idée, ce projet?
En gros, j'ai rencontré mes associés, donc Paolin, quand j'ai fait HEC Entrepreneur, j'ai rencontré Paolin, c'est la première personne que j'ai vue à HEC, on était tous les deux, on a eu le temps de parler 15 minutes avant que les autres arrivent parce qu'on était en avance.
Et ça a matché.
Et ça a matché tout de suite. Donc on s'est dit, ok, on va faire un business ensemble.
Dès le départ,
ça a été très vite. Au bout d'un mois, on savait que voilà, ça fitait bien, on avait envie de bosser ensemble. Donc on s'est dit qu'on allait faire ce business. Et Paolin avait créé une première société avec Dean. Et nous, on est des vendeurs, on est des épiciers finalement avec Paolin. Donc on vend, on fait de la logistique, on organise des opérations. Par contre, on sait faire aucune ligne de code. Et il a dit, j'ai créé une boîte il y a 2 ans avec un gars qui s'appelle Dean. Faut que tu le rencontres parce que lui, il sait coder. Et donc, il a rejoint l'aventure et ça a commencé comme ça, voilà.
Donc, à 3, vous étiez hyper complémentaires au final.
On a une très, très bonne complémentarité, à la fois le côté business, marketing, à la fois le côté agricole, puisque j'ai une formation agricole également, et Dean qui code à merveille. Donc, on s'est lancé et puis cette année, on va faire 50 millions de chiffres d'affaires, 75 collaborateurs, une boîte qui est à l'équilibre. Enfin, voilà, on est passé vraiment de ce modèle de start-up où on allait chercher des parts de marché et ainsi de suite, on est une boîte rentable et on va encore chercher des parts de marché. Donc ça, c'est vraiment un mindset qu'on a bougé et c'est grâce au Covid finalement qu'on l'a fait.
Ah oui ?
Donc aujourd'hui, on continue à avoir la même croissance qu'avant, sauf qu'on a augmenté la rentabilité drastiquement de la société.
Et du coup, pourquoi vous dites que c'est grâce au Covid ?
Parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on avait pas peu de visibilité sur le marché du financement finalement. Et ce qu'on a fait, c'est de se dire, ok, si on n'a pas trop de visibilité, on va partir sur la rentabilité et de toute façon, on l'avait déjà un petit peu en tête. Donc, ça nous a mis encore plus le pied à l'étrier pour se dire, OK, on est rentable et après, il n'y a pas de dépendance financière à qui que ce soit et on est prêt pour continuer la croissance, ad vitam aeternam et être indépendant.
D'accord, c'est génial au final.
C'est une belle aventure parce que c'est vrai qu'il y a énormément de startups qui se créent, qui crament beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, nous, on a pris vraiment ce côté-là à contre-pied. Comment est-ce qu'on est capable de conserver la croissance tout en ayant de la rentabilité ? Et je pense qu'après 7 ans, c'est pas mal d'y penser.
Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes le premier diplômé d'HEC avec un bac agricole.
Exactement.
Du coup, comment ça s'est passé dans votre tête quand vous avez eu votre bac, vous vous êtes dit tout de suite, je vais faire... En fait, quel était le projet ?
Ouh là là, le projet était long.
C'est venu après, en fait. Et dès le départ, vous vouliez être agriculteur, vous vouliez être entrepreneur, justement, dans le domaine de l'agriculture ?
Je voulais être agriculteur, mais pas être agriculteur qui est tous les jours dans les champs. Ce que je voulais, c'est déployer l'entreprise agricole, faire de la vente directe, ouvrir des magasins, faire de la vente aux professionnels, mieux valoriser finalement les produits d'exploitation. Et de fil en aiguille, j'ai repris mes études, j'ai fait un IUT, je suis allé en Angleterre, je joue au rugby, je suis rentré en France et là je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je crée maintenant ? J'avais un bac plus 4 ou est-ce que j'intègre HEC ? Je me suis posé la question et je me suis dit bon allez, j'essaye HEC, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, je créerai ma boîte. Mais je voulais HEC, voilà, c'était le seul que j'avais demandé. Et j'ai eu un coup de chance, puisque j'ai reçu la convocation. J'ai fait, non, mais ils sont complètement dingues. Il y avait des mecs incroyables à côté de moi.
Pourquoi ?
Et voilà, j'ai été sélectionné avec mon bac agricole. Donc, c'était assez cool, c'était marrant.
C'était une fierté, j'imagine.
Ouais, c'était une vraie fierté, ouais.
Et vos parents, alors ? Parce que du coup, vos parents sont dans le milieu également.
Oui.
Et comment ils doivent être fiers aujourd'hui ?
Alors, ils sont fiers. Après... C'est pas toujours évident quand on a le bon sens paysan dans le bon côté du terme. Hein. Généralement, les investissements, c'est des investissements très raisonnés, c'est des investissements très long terme, ainsi de suite. Quand on explique qu'on fait une start-up, qu'on va lever de l'argent, beaucoup d'argent, qu'on dépense cet argent, qu'on n'est pas forcément rentable tous les ans, ils commencent à se poser des questions. Mais comment est-ce que vous pouvez vivre alors que vous n'êtes pas rentable ? Donc, il y a une grosse démarche d'accompagnement aussi des parents et des proches qui ne comprennent pas forcément cette manière de fonctionner et de créer des sociétés. Et aujourd'hui, après 7 ans, ils commencent vraiment à le comprendre et puis ils l'ont accepté. Et ensuite, effectivement, le fait d'être dans le milieu agricole, d'avoir changé en partie le milieu agricole, parce que quand on a apporté de la transparence, on a fait effectivement chuter un peu les prix. Donc on a redonné une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène aux agriculteurs. Et effectivement, pour mon père qui est agriculteur, c'est une fierté de se dire que son enfant a participé à cette digitalisation, à cette transformation du secteur.
Ouais, il peut dire c'est mon fils, c'est grâce à mon fils que le marché va bien, enfin va mieux.
Il le dit pas trop parce que il est fier, mais pudique. Personnellement il est assez pudique. Ouais.
Et d'accord. Du coup voilà, quel est l'avenir pour Agriconomie ? Donc c'est hyper bien parti. 2022, comment vous la voyez ?
2022, comment on la voit ? Continuer d'augmenter le chiffre d'affaires, continuer d'augmenter la rentabilité.
Vous pensez d'abord rentabilité ?
Maintenant, on pense croissance versus rentabilité. En fait, chaque investissement doit être beaucoup plus réfléchi. Chaque investissement est réfléchi d'ailleurs. On ne va pas dépenser des sommes folles dans des choses où on n'est pas sûr du ROI, donc on calcule tous les ROI.
Tout est calculé,
exactement.
Tout est bien pesé.
Exactement, il n'y a pas un investissement qui est déconsidéré. Donc c'est à chaque fois calcul de ROI, on analyse si c'est un bon investissement, on le fait, si c'est pas un bon investissement, on le fait pas.
Et ça, avant, vous ne le faisiez pas systématiquement, du coup ?
On le faisait, mais on tâtonnait, on a mis 7 ans à vraiment comprendre là où fallait investir. Maintenant qu'on a compris parfaitement là où faut investir, on investit au bon endroit et on délaisse finalement les investissements qui n'étaient pas les plus rentables.
Ouais.
Mais heureusement qu'on a l'expérience de ces 7 ans, sinon aujourd'hui, on pourrait pas utiliser cette technique.
Et ça, c'est dur à faire, justement, cette technique ?
Quand on a trouvé les leviers d'acquisition, quand on a trouvé les leviers de transformation, les leviers qui te permettent d'augmenter le panier moyen et ainsi de suite, c'est pas compliqué. Mais on a mis quand même pas mal de temps avant de les trouver.
On est obligé de chercher, voilà. D'y aller à tâtons, etc., de tout tester, en fait.
Exactement. Et au début, on a testé plein de choses. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, ces trois leviers d'acquisition
ça
sont
fonctionne.
Les plus performants.
Ouais. Et qu'est-ce que vous conseillerez justement à des start-upeurs qui ne sont pas encore à votre stade, justement, pour trouver cet équilibre?
Après, de la manière la plus humble possible, je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, c'est le travail, bien comprendre son marché, être passionné par ce qu'on fait. Enfin, moi, quand je vais au travail, je ne vais pas au travail, quoi. J'adore ce que je fais et j'aime tellement ce que je fais que c'est un plaisir. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'avec le nombre d'heures qu'on fait, si ce n'était pas un plaisir...
Ce serait plus compliqué.
Ça serait beaucoup plus compliqué, exactement. Ouais. Donc, être passionné. Deux, bosser dur. Trois, être capable de prendre de la hauteur pour toujours repenser son business.
Et ça, repenser son business, parfois, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué quand on est... C'est quand même sans cesse une remise en question. C'est...
Quand t'as la tête dans le guidon et que t'arrives pas à remonter la tête du guidon, ouais, effectivement, c'est vraiment... compliqué de repenser ton business. Donc, il faut toujours avoir des mentors, toujours être accompagné de personnes extérieures, personnes du marché, qui sont capables de te remonter, qui sont capables de te tirer un peu à l'extérieur de ton opérationnel pour que tu vois un petit peu là où finalement ça pêche. Parce que quand tu es au quotidien dans le business, tu ne le vois pas forcément, si ce n'est dans les KPI. Bon, ouais. Bah voilà, tu regardes le trafic n'est ouais. Pas là, qu'est-ce qu'on fait,
qu'est-ce
quoi,
qu'on
pour
fait,
l'améliorer
ouais. Et justement, vos mentors, c'est qui?
Aujourd'hui, donc on a les personnes de notre board qui nous accompagnent énormément. Ouais. Donc on a Corinne Lejbovic qui nous accompagne, des fonds d'investissement qui ont déjà investi dans le e-commerce et dans le digital. Donc ils ont de l'expérience dedans.
Ils vous conseillent.
On a Didier Rousseau, effectivement, par exemple, qui nous accompagne puisqu'il est dans le secteur agricole depuis des dizaines d'années. Donc il connaît très très bien le secteur. Et puis après, c'est nos clients, quoi. On va voir nos clients, on leur demande. À titre perso, j'ai un petit portefeuille de clients encore qui me demandent une demi-journée de boulot toutes les semaines. Mais c'est tellement intéressant de travailler avec eux parce qu'ils vous disent exactement ce que vous devez faire.
Ah oui.
Bah, ça serait cool qu'on puisse faire ça. Ce produit-là, ouais. Vous ne l'avez pas. Donc, ça nous permet vraiment de comprendre quel est le besoin de notre client et améliorer notre offre pour qu'elle matche parfaitement avec le besoin.
Mais au final, c'est la demande du client qui prévaut quand même, qui est la plus importante.
C'est toujours le client, c'est celui qui paye. Hein.
C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez une vie de famille, vos proches, est-ce que c'est compliqué d'allier justement ce métier avec une vie de famille? Quand je dis ce métier, c'est une start-up, mais qui marche très bien, qui demande beaucoup d'investissement, d'implication personnelle. Est-ce que c'est compliqué de parfois faire la part entre les deux?
C'est pas compliqué à partir du moment où on a choisi la bonne personne, j'ai envie de dire. Donc oui, je suis marié. Tout de suite, ça s'est dit. Hein. De toute façon, on le voit très vite. Si la personne, elle demande beaucoup plus, rentrer à 18h, partir à 9h le matin, avoir tous les week-ends de libre, c'est juste impossible. Enfin, moi, c'est pas ma philosophie de l'entrepreneuriat. Oui. Mais je pense que c'est pas possible. Donc très vite...
C'est pas possible. De toute façon, ce n'est pas possible. Quand on
je
est,
pense pas.
Ouais. On y pense tous les jours. Est-ce que tous les jours, vous y pensez? Est-ce que vous arrivez vraiment à couper?
Il faut être capable, à mon avis, de poser un peu le cerveau quand on rentre pour être disponible à la maison. Après, ouais, c'est une très bonne question parce que même si c'est toujours là, après, je bosse un peu à la maison, mais en masqué, quoi.
On a toujours quelque chose à faire au final.
En 3 minutes sur le téléphone, ouais. Voilà. Mais ouais, après, une fois, si on a une personne qui est très compréhensive, qui est capable de comprendre l'intérêt, l'enjeu, que ça fait partie de notre santé également, parce que si on n'avait pas cette excitation du quotidien, on ne se sentirait pas forcément accompli.
On ne serait pas épanoui au final.
Je pense que ça fait partie finalement de l'environnement du couple, quoi.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour les mois, les années qui arrivent? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Agriconomie?
Que ça continue comme ça.
D'autres pays? Vous visez d'autres pays?
Déjà continuer le développement dans les pays où on est. Continuer le développement en Allemagne, en Italie, en Espagne. L'objectif, c'est que l'année prochaine, ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires.
Aujourd'hui, c'est combien?
Aujourd'hui, on est à 15% du chiffre d'affaires.
D'accord.
Voilà. 15% des commandes qui sont faites dans ces pays-là.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, surtout que la France continue de croître très vite.
Ouais.
C'est vraiment augmenter le développement à l'international, sachant qu'on a d'autres activités en cours de déploiement. On a une activité où on loue à nos concurrents qui sont les coopératives et les négoces et les firmes agricoles un CMS pour faire du e-commerce, un OMS pour le traitement des commandes, un TMS, ce genre de choses. En fait, nos concurrents sont venus nous voir pour nous dire « Ok, on voudrait votre techno pour la mettre chez nous ». Et donc, ça nous a fait une business unit
en plus,
qui est aujourd'hui en fort développement. Et donc, on va équiper certains de nos anciens concurrents qui deviennent nos partenaires avec des solutions digitales qui leur permettent d'aller sur le web et de renforcer leurs opérations, de réduire leurs charges et d'augmenter le chiffre d'affaires et leurs marges.
Et ça, c'est venu comme ça? C'était réfléchi, cette business unit? Vous vous levez un matin, vous vous dites, bah tiens, on va faire ça? Ou c'est par hasard, en fait, que c'est venu?
En fait, de fil en aiguille, à force de parler avec des acteurs, ils nous ont dit, bah vous avez l'expérience de ce marché, vous l'avez déjà fait. Et nous, on n'a pas cette expérience et on voudrait le faire. Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour le faire? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé finalement cette offre, qui était une demande finalement des gens qu'on rencontrait au quotidien et qui nous disaient « Ouais, donne-moi ton expertise, je ne sais pas comment lancer finalement le digital dans ma société, donc file-moi un coup de main. »
D'accord. Bon, bah en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est bien parti. Merci beaucoup, Clément Lefournier. Je rappelle que vous êtes directeur général et cofondateur de Agriconomie.
Merci à vous.
À très bientôt.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.